à tous, aujourd'hui nous sommes ravis de vous retrouver dans une deuxième émission qui portera donc sur l'actu, plus précisément un peu de Noël car c'est la période. Donc autour de moi il y a Estelle,
salut,
Émilie,
salut,
Sandra,
salut,
ainsi qu'Elena.
Coucou.
On va parler avec Émilie qui va nous présenter un compte Insta qui vient d'ouvrir.
Je vais donc vous présenter le compte Instagram de Saint Thomas d'Aquin. Vous avez sûrement dû le remarquer, mais il y a quelques semaines, les élèves ont eu l'occasion de voter pour le nom du nouveau compte Instagram de Saint Thomas. Il était donc possible de voter pour Les Petites Taubeaux de Saint Thomas, Saint Thomas Actu ou alors Saint Thomas d'Aquinfo. Et c'est finalement Les Petits Topos de Saint-Thomas qui a eu le plus de succès. Il est donc possible depuis le 25 novembre de découvrir sur Instagram le compte officiel de Saint Thomas d'Aquin, dans lequel des lycéens partagent des informations sur le collège et le lycée. Avec une moyenne de 2 publications par semaine, le compte Instagram aborde les événements à venir, mais aussi des récaps, des célébrations, bénévolats, de l'UNSS, etc. L'objectif de ce compte, c'est avant tout de transmettre aux élèves plus d'informations sur ce qui se fait à Saint-Thomas au fil de l'année. Si ce nouveau compte est sur Instagram, c'est surtout parce que c'est l'un des réseaux sociaux les plus utilisés par les lycéens. On remarque la nécessité de ce compte quand, en une semaine, le compte Instagram atteint le même nombre d'abonnés que le compte Facebook en un an. Au moment où je vous parle, Les Petits Topos de Saint-Thomas compte 195 abonnés et 6 publications. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner vous aussi au compte Les Petits Topos de Saint-Thomas. Saint-Thomas, c'est S-T-H-O. Il n'y a pas d'espace ni de majuscule. Afin d'être tenu informé de la vie à Saint-Thomas d'Aquin.
Et donc, qui c'est globalement qui participe à ce compte, qui le gère?
On est plusieurs premières, mais c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup.
Ouais,
ce serait bien qu'on soit un peu plus.
Voilà, c'est plus généralement le lycée qui gère le compte. Ok, d'accord. Ensuite, nous avons Sandra qui va nous parler un petit peu plus de l'actualité autour du Qatar.
Alors, le Qatar reçoit la Coupe du Monde 2022 de football. Pour ce faire, un stade à usage unique avec une clim à ciel ouvert, sous une chaleur inouïe, fut construit par des Qatariens et des étrangers mal payés. Il y eut 500 blessés et 50 morts selon l'OIT. Des mauvais logements sont installés pour les touristes. Bientôt, des crises en termes d'électricité et des plaintes du réchauffement climatique, voilà ce qui nous attend. Aujourd'hui, suite à ces déclarations, une partie de la population européenne ne regarderait pas la Coupe du Monde et de grandes villes telles que Paris, Lyon, ne la diffuserait pas. Pour assurer la sécurité des touristes européens, des agents de police seraient envoyés au Qatar.
Carrément.
Oui.
Ok. Ok, et parmi vous, il y en a qui suivent l'actualité sur la Coupe du Monde?
Alors moi, oui, c'est vrai que je suis pas d'accord pour le faire au Qatar, mais je veux pas rater quand même des matchs de Coupe du Monde.
Ouais,
du coup, je regarde quand même. Mais bon, je suis pas totalement d'accord avec tout ce qu'ils font, quoi.
C'est vrai que ça peut faire polémique de faire ça au Qatar.
Ouais, mais c'est quand même la Coupe du Monde, ce serait dommage de la rater vu que c'est tous les 4 ans.
Je suis d'accord. Toi, Estelle, t'en penses quoi?
J'ai regardé pratiquement tous les matchs et je suis plutôt bien... les différents événements, et en effet je trouve que les polémiques qu'il y a pu avoir, ça a pu freiner quelques-uns, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu passé selon les différents pays et les différentes personnes, ça a pu passer. Certains ont en effet bien suivi, comme le montrent par exemple, si je me trompe pas, les chiffres de visionnage des matchs.
Ouais, voilà, il faut se dire aussi, est-ce que c'est moins bien à cause de cette polémique? Est-ce que c'est moins bien, c'est moins regardé que les autres années parce que c'est fait au Qatar?
Moi, j'y crois pas trop.
Vous pensez que ça peut y jouer ou pas?
En vrai, le lieu, bon, c'est une Coupe du Monde quand même, les gens vont pas s'empêcher de regarder pour le lieu. Quoi.
Ouais, mais c'est vrai qu'on nous dit faites attention à la consommation d'énergie, tout ça. Et là, le fait que ça se joue au Qatar, c'est vrai qu'il y a des gens, ils peuvent se dire c'est contre nos principes. Mais
après, il y a aussi les droits de l'homme.
concernant le Qatar. Après, quand tu vois le nombre de personnes qui sont parties voir les matchs aussi.
Ouais.
Mais il y en a sûrement moins que les années passées.
Ouais, je pense.
Après aussi, sur les chanteurs, il y en a qui ont refusé, comme Dua Lipa, de chanter par rapport aux droits de l'homme.
Shakira.
C'est vrai, c'est vrai. Shakira, oui. Et donc, du coup, là, ça a fait un chanteur du groupe BTS, je crois.
Bah, quand on voit la musique.
C'était pas.
C'est pas. Bon, on va pas se.
Bon, et toi, Émilie
Mais si, enfin, il fallait boycotter, mais il y a 10 ans, quand ils ont dit que ça allait se passer au Qatar, pas mais maintenant, alors que c'est bon, tout est organisé, tout le monde, ils sont déjà morts, ceux qui ont construit les...
Le Qatar, il avait quand même refusé d'accepter que beaucoup de touristes viennent. Il fallait avoir obligatoirement un ticket pour avoir accès au match et 3 accompagnateurs maximum qui devaient payer une somme... plutôt élevé pour avoir une petite carte pour y aller, donc finalement...
Alors qu'on peut le voir depuis notre télé, quoi.
Oui, voilà.
Ouais. Bon, pour poursuivre, on a Estelle qui va nous présenter une chronique scientifique, donc je te laisse la parole et tu vas nous présenter tout ça.
Donc, je vais vous parler un petit peu des expéditions qu'il peut y avoir pour découvrir... les grands fonds, enfin en quelque sorte les profondeurs abyssales.
Les poissons abyssaux, c'est quoi ?
Alors c'est des... Je vais l'expliquer un peu plus tard, mais c'est justement des poissons qui vivent dans les profondeurs abyssales.
Ah, d'accord.
Donc, il y a seulement 10% des fonds marins qui ont été photographiés avec précision grâce à des sonars. Il reste donc 80% à découvrir. Car... 10% a été photographié. Enfin, on n'a pas forcément les détails avec précision. Donc, il faut savoir qu'il y a que 80%, enfin, qu'il y a 80% qui reste. Oh là là.
Qui reste à découvrir.
Qui reste à découvrir en raison du coût et des difficultés des explorations. Donc, la mer, c'est l'élément vital dans l'histoire qui détermine la météo, qui régule le temps et qui permet à tout être vivant de vivre. Je vais vous parler plus précisément d'une expédition qui a été menée par des chercheurs du Muséum Victoria Research, pardon pour l'accent, pour découvrir les grands fonds en Australie. Et cette expédition a été réalisée en octobre 2022. Donc, celle-ci a permis d'avoir une cartographie très précise. Cette expédition a permis également de découvrir de nouvelles espèces. Donc, étant donné que les profondeurs abyssales sont inexplorées, de nombreuses créatures sont inconnues. En effet, on considère qu'il y a environ 28 000 espèces de poissons et les poissons ont en quelque sorte une grande capacité d'adaptation anatomique et physiologique. Donc, la vie de ces... espèces, c'est difficile par le manque de lumière. Et certaines expéditions réalisées ont donc permis de découvrir des espèces de poissons abyssaux qui ont été pêchées à plus de 5 km. Donc, il faut savoir qu'il y en a certains qui sont capables de bioluminescence pour attirer leur proie, tout en se cachant ou en se camouflant dans les profondeurs marines. La plupart des poissons abyssaux sont dotés d'une bouche qui est très grande et certains, pour manger leur proie, la déboîtent. Enfin, la propulse un peu en avant. Si je ne me trompe pas, c'est le cas également du grand requin blanc.
Enfin, mais c'est pas le poisson dans Nemo, là ? Le truc avec...
Alors, justement, comment dire, le plus connu, c'est le Ceratias albuelli. Je m'excuse pour le nom latin. Et donc oui, en effet, en fait, il est en symbiose avec des bactéries. Et cela permet donc d'illuminer le filament pour attirer les poissons à lui. Donc maintenant, je vais vous demander d'écrire à nos auditeurs 2 poissons abyssaux que j'ai sélectionnés.
Je veux qu'on fasse des cauchemars. Hein. Mais non...
Ah,
alors attends, déjà c'est très coloré, c'est un poisson très coloré.
Il ressemble à un squelette.
Un squelette, ouais, c'est ça. Vieux, il a les yeux blancs, les dents...
Et les jaunes. Hein.
Les dents, on dirait des arêtes.
Ouais.
Ouais, c'est pas... Donc je vous présente le poisson vipère de Sloan. Donc il faut savoir qu'il fait partie de la famille des stoniformes et il est plutôt dans les eaux tempérées ou chaudes. Et comme vous pouvez le voir, à sa grande bouche et à ses dents qui sont assez aiguisées, il taillade ses proies.
Il broie ses proies.
Parce qu'il faut savoir que du coup, il n'y a pas non plus trop à manger au niveau des profondeurs abyssales. Donc, quoi qu'il arrive, dès qu'il y a quelque chose à manger, ils n'hésitent pas.
Après donc l'intervention de Estelle avec cette thématique très enrichissante pour la culture, nous allons passer à Elena qui va nous présenter les clichés un petit peu de Noël, car on est en période de Noël et c'est l'occasion d'en parler.
Alors, qui dit Noël dit film de Noël. Et oui, c'est reparti pour regarder des films dont on connaît déjà la fin. On s'en plaint toujours mais on ne s'en lasse jamais. C'est toujours la même chose, l'intrigue se déroule toujours dans une petite ville connue où tout le monde se connaît. Il y a toujours quelqu'un qui déteste Noël et qui après l'adore. La règle d'or est de perdre un proche pour que la magie de Noël opère. Il y a toujours cette personne dont la vie ne tourne qu'autour de Noël. Les enfants sont bien évidemment experts en amour. Et la morale de l'histoire est d'être altruiste, et d'aimer tout le monde. À part TF1 et M6 qui mettent tout le temps les mêmes téléfilms, d'autres plateformes se lancent aussi, plus particulièrement Netflix. Netflix a pour habitude, durant la période de Noël, de faire un jour un film de Noël. Heureusement que ces films ont une histoire un peu plus moderne, comme par exemple Love Hard avec Nina Dobrev et Cinderella Story. Pardon pour l'accent.
On t'en veut pas.
D'accord, merci. En dehors de Netflix, La vie est belle de Capra et bien entendu, comment passer à côté du film le plus gnangnan de tous les temps, Love Actually. Enfin bref, sortez vos plaids et vos chocolats chauds, c'est l'heure du marathon de films. Et pour ceux qui n'aiment pas les films de Noël, tant pis pour vous, vous n'aurez pas de cadeau.
c'est quoi ton film préféré de Noël?
Mon film préféré de Noël?
Celui que tu peux pas louper chaque année. Quoi.
En fait, je pense que sur Netflix, je les ai déjà tous vus. Et je pense que c'est lui que j'aime le plus. C'est celui avec Vanessa Hudgens où elle échange sa place avec une princesse. La princesse de Chicago.
Jamais vu.
Moi je l'ai vu.
Toi, Sandra,
c'est un film préféré.
Alors, c'est pas un film type cliché de Noël, mais c'est la chronique de Noël.
J'ai vu, c'est bien aussi.
Sur Netflix aussi, c'est avec un vrai Père Noël. Quoi.
Ils ont sorti
le. Le Père Noël sorti de Wish qui fait peur.
Non.
Émilie?
Bah moi c'est bien cliché, du coup c'est Love Actually.
Ah ouais, mais on est dans le thème quoi.
Oh, et toi Emma. Julia?
Moi je préfère les films d'horreur.
Et les films aussi.
L'étrange. L'étrange Noël de Monsieur Jack, non?
Non.
Ah j'adore non,
celui-là, je l'ai vu mais en cours en anglais.
Mais on l'a vu en cinquième.
Mais c'était.
C'était trop bien.
En vrai ça allait.
Mais d'accord, donc elle a cassé l'ambiance.
Non, mais après, il en faut pour tout le monde aussi. C'est normal qu'à Noël, tout le monde n'accroche pas les films clichés.
Après,
c'est vrai qu'une fois que t'as fait le tour, tu te dis, bon, bah, je me regarde quoi maintenant.
Oui, mais c'est toujours plaisant, je pense, de savoir la fin, que tout va bien aller, que tu sais que tu vas pas pleurer devant le film, tu vas avoir une bonne ambiance.
J'avoue, après, j'avoue.
Nous avons donc vu les films de Noël avec Elena et nous allons passer maintenant aux films qu'on a vus dans le cadre scolaire avec Patchy.
C'est ça, donc on a la chance d'avoir un programme lycée au cinéma, d'aller au cinéma de façon assez régulière. Donc on a vu deux films récemment. Le premier, c'était dans le cadre des classes SEA du lycée, donc seconde, première terminale SEA. On est allé voir Elephant Man, donc de David Lynch, qui est sorti en 1980. Donc c'est un film en noir et blanc qui est inspiré d'une histoire réelle. Le cadre du film, c'est l'Angleterre victorienne du 19e. Et en fait, on suit la vie de John Merrick, qui est un homme atteint d'une malformation assez visible et surnommé Elephant Man. Donc ça expose le milieu assez malsain des foires à monstruosité qui existaient à l'époque, donc, qu'on connaît aussi sous le nom de Freak Show. Il y a une saison de American Horror Story qui a ce nom d'ailleurs. Donc en fait, on allait exposer des gens avec des difformités. Il y avait des nains, des gens qui avaient des malformations, etc. Une espèce de zoo humain, finalement. Et c'était très à la mode au 19e. Donc, le film il pose des questions assez intéressantes sur beaucoup de sujets, comme la différence et le rapport entre la différence et la société. Est-ce qu'on peut s'intégrer réellement en société en ayant une différence qui est aussi visible? et puis aussi sur le voyeurisme du spectateur, de notre curiosité qui est parfois un peu morbide, qu'on aime tous aller s'effrayer devant un film d'horreur par exemple.
Donc toute cette curiosité un peu morbide qu'on peut avoir devant les choses qui nous effraient mais qui nous attirent. Et au final, j'ai trouvé personnellement que c'était un film assez intéressant, qui questionne beaucoup de sujets. C'est un classique qui a été réadapté récemment, il me semble, j'ai plus les dates ni le réalisateur. Mais par contre, visuellement, il faut avouer qu'il a pris un coup de vieux. Et de nos standards actuels, ouais, il fait un peu vieillot. Et puis le deuxième film qu'on a vu, et cette fois c'était Tous les Terminales, puisque c'était organisé par la Pastorale, c'était Reste un peu, réalisé par Gad Elmaleh, qui est sorti l'année dernière, donc en 2022. Pour le scénario, on suit Gad Elmaleh qui revient dans sa famille, donc qui est juif séfarade. En fait, il cherche à annoncer à son entourage sa conversion récente au catholicisme. Donc là aussi, ça va poser une réflexion sur le rapport qu'on a à la religion. Donc c'est un film qui est assez spirituel quand même, où on a toute cette idée du cheminement vers la foi, de qu'est-ce que c'est d'avoir la foi et comment est-ce qu'on gère une différence de foi avec son entourage. Et pour les gens qui ne sont pas spécialement religieux, ça posait aussi une question intéressante sur l'annonce et le fait d'annoncer quelque chose à sa famille, une nouvelle qui ne va pas forcément plaire. Moi j'ai fait le lien, je sais pas si en première on l'utilise toujours, mais en tout cas l'année dernière c'était le cas, sur la pièce de théâtre Juste la fin du monde.
Oui, on le lit. Ouais.
Super, bah voilà, on suit un personnage qui tout au long de la pièce a besoin d'annoncer quelque chose mais il n'y arrive pas. Bon, c'est assez loin, mais on reste quand même dans la thématique du fait de parler à ses parents, à sa famille et de pas forcément y arriver. Donc là encore c'était des idées assez intéressantes et le film était beaucoup plus récent, mais moi personnellement ça m'a pas forcément touché. Maintenant, je pense que ça a dû en toucher d'autres, c'est vraiment personnel et subjectif. Et puis, tant qu'on est dans les films, je vais parler du ciné-club, puisque donc avec plusieurs camarades de Terminal, on organise un ciné-club. Donc le but, c'est de diffuser un film au cinéma pour les gens du lycée, donc ce serait une soirée cinéma pour tous les lycéens qui veulent venir. Donc on s'est mis d'accord sur le choix du film, ça sera Fight Club. Et par contre, pour ce qui est de la date et de toutes les modalités, ça n'a pas été encore décidé. Mais voilà, en tout cas, le projet est mis et prochainement, vous devriez avoir des nouvelles sur le ciné-club.
Bah, c'est super, ça, c'est une très très belle mise en place. C'est destiné que aux lycéens ?
Ouais, c'est que lycéens, c'est okay. Le terminal.
Ok, ok. Bah, c'est super. Donc maintenant, nous allons passer à Ludivine qui va nous présenter une conférence d'Ukraine, c'est ça ?
Oui, c'est une conférence qui s'est tenue le 22 novembre à la fac de Bayonne. Elle a convié tous les élèves de terminale AGGSP et également ceux de droit. La conférence devait se dérouler autour des thèmes que l'on aborde à AGGSP, comme la guerre ou le patrimoine qu'on voit en ce moment. Et ici, ça touchait le thème donc, de la guerre. C'était donc une conférence, comme tu l'as dit, autour de l'Ukraine, mais surtout de la Russie et de son président qui est Poutine. L'Ukraine étant seulement un des aspects abordés dans une des parties. Nous étions de plusieurs établissements, il me semble qu'il y avait également des élèves de l'Argentée qui étaient présents. On a pu remarquer que nous étions donc les derniers arrivés et les premiers à prendre des notes. On n'était pas beaucoup à en prendre, mais pourquoi on était les derniers arrivés? Tout simplement, Monsieur Moser s'est perdu dans Bayonne, il ne trouvait pas son chemin. Mais du coup, il est bien arrivé avec un petit peu de retard. Mais revenons un peu plus sur la conférence. Celle-ci a beaucoup plu aux élèves, littéraires comme scientifiques, car il y avait deux filles qui étaient en droit, mais qui avaient seulement des matières scientifiques, physique et maths, et une SVT et maths. Et elles nous ont dit que c'était très audible et très structuré, donc elles ont compris, même en n'ayant pas peut-être les bases qu'on a pu avoir en AGGSP, et que son propos était donc très accessible, même à des non-initiés. Le sujet était intéressant, et ainsi dans l'actualité, vu que l'Ukraine est une guerre actuelle. Également dans tout ce qui est au niveau des littéraires, une bonne partie appréciée et compte y retourner à la prochaine qui est en janvier.
Il paraît que vous n'étiez pas trop enthousiaste à l'idée d'assister à cette conférence et pourtant vous en êtes ressorti ravi, content. Que pouvez-vous nous dire de ça ?
Ben, oui, il y en avait beaucoup qui étaient sceptiques au début, mais une fois arrivés et lancés, ben, ils ont trouvé ça plus intéressant. Après, c'est sûr que le thème, l'Ukraine, vu qu'on en entend beaucoup parler tous les jours, je pense que ça bloquait un peu. Mais quand on a vu que c'était plus autour de la politique de Poutine et plutôt de la construction de la Russie avec Poutine, ben, ça a plus intéressé. Mais aussi, on a remarqué que ceux qui étaient un peu plus déçus à la fin, c'est ceux qui n'avaient pas pris de notes et qui donc avaient lâché.
Est-ce que ça aide dans l'orientation des études ou même une orientation personnelle?
Oui, parce que cet institut de géopolitique propose l'ouverture de deux licences l'année prochaine à la fac de Bayonne. Il y aura une licence internationale et européenne et une autre qui sera plus tournée autour de l'aide humanitaire et internationale. Du coup, ça permet d'ouvrir les jeunes à la géopolitique plus sur Bayonne.
Oui, ça leur donne une opportunité de se renseigner sur des choses qu'ils n'iraient pas faire eux-mêmes.
Des études plus à l'international au lieu de rester que sur le droit ou de partir vers les grandes villes.
Ouais, ok. Bon, et écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Nous allons vous laisser sur ça. Et puis, on vous souhaite à tous un joyeux Noël.
Joyeux Noël.
Bonne fête de fin d'année.
It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time.